Bilan d'un mois d'essai, bilan d'un mois de pratique de la liberté. Il y a juste un mois que souffle officiellement un vent de liberté. Un vent, disons une brise. Mais elle a suffi pour rafraîchir l'atmosphère de 20 années d'inquiétude et d'angoisse cruelle. N'est-il pas temps aujourd'hui de tenter de faire un bilan au lendemain de cette 33e Assemblée Générale de la Société Interaméricaine de Presse à Santo Domingo? Nos trois représentants, et l'un d'eux particulièrement, notre collaborateur Guy Meyer, y ont obtenu un succès d'estime, même s'ils n'ont pas pu du premier coup effacer du visage du régime les marques d'opprobre que des années de tyrannie y ont laissées aux yeux de nos confrères de la presse internationale. On n'efface pas en un jour, même avec les intentions les plus généreuses, les marques sanglantes de 20 ans. Faire un bilan de ce mois d'essai, de pratique de la liberté, doit comporter au départ un souci de regarder les choses en face, sans complaisance, mais aussi sans esprit de dénigrement systématique. Il nous faut toute la lucidité, toute la prudence qui ont été nôtres, qui ont été nos caractéristiques, celles des chroniqueurs indépendants durant ces 20 années. La même prudence sage qui nous a évité la mise à mort brutale, la même lucidité patiente qui nous a gardé des emballements provocatoires et stériles. Si aujourd'hui l'on attend de la presse indépendante un certificat de bonne conduite pour un régime qui fait d'évidents efforts pour se couper subtilement d'un passé abhorré, effacer les traces des abus, des injustices, des crimes d'hier, ce n'est pas en se précipitant tête baissée à nouveau dans la louange et la flagornerie, ou dans l'autosatisfaction des maigres résultats obtenus. Ce n'est pas ainsi que l'on y parviendra. De notre côté, le journaliste indépendant a une lourde responsabilité, celle de ne rien faire qui heurterait les velléités libérales et stopperait le cours de la démocratisation. Nous avons vécu ces 20 années de confusion intellectuelle, de confusion d'une opinion publique gavée de propagande officielle, mais sceptique devant cette avalanche de mensonges. Nous avons vécu ces 20 ans de confusion dans le silence. Nous venons de vivre 30 jours dans un brouhaha de voix ressuscitées. Mais l'atmosphère est-elle moins confuse pour autant? Tout le monde conteste aujourd'hui, tout le monde proteste, même ceux qui hier... Mais passons, tout le monde se fait l'écho de revendications, de groupes d'intérêts, d'individus spoliés, brimés. Mais cette enivrante euphorie qu'il fallait prévoir est-elle significative de la démocratisation de ces 30 jours? Il est bien sûr réconfortant pour nous, ici à Radio Haïti Inter, nous qui avons, comme le souligne si fraternellement et si chevaleresquement notre courageux confrère Fardin dans sa dernière édition, nous qui avons, pendant 20 ans, mené ce combat pour la vérité et la liberté seuls, il est réconfortant pour nous de nous sentir à présent entourés, de nous sentir à présent au sein d'une large fraction d'opinion publique motivée. Il est vrai que Fardin oublie dans sa modestie de signaler que le petit hebdomadaire qu'il dirigeait est venu ensuite bien vite épauler mon action solitaire. Et s'il évoque les longues nuits de veille et d'angoisse, les convocations musclées, les rappels à l'ordre brutaux, les caponnages insidieux, les tentatives de séduction sinueuses. Lui aussi, il a bien vite connu le sort de l'homme traqué dans sa vie, inquiété dans ses biens, tourmenté lorsqu'à ses côtés un camarade tombait frappé en plein midi. Fardin a connu très vite ce dilemme avant chaque prise de position. Est-il prudent de continuer à dire ou à murmurer la vérité? Est-il opportun de glisser entre les lignes, comme moi entre les chansons, un appel à la liberté? Toi dans les cris, Ben, moi dans le parler, pendant longtemps nous nous sommes complétés. Pendant longtemps, nous avons fait écho. Nous étions l'écho l'un de l'autre. Et c'était notre combat. Et c'était bien ainsi. Notre combat épique pour le créole, t'en souviens-tu, Ben? Pour le créole, contre des mandarins attardés et venimeux. Notre combat, que trop ont tendance à oublier aujourd'hui, pour une plus juste ristourne au peuple, à la nation, des profits d'une compagnie autrefois flibustière. Je n'oublierai jamais ce combat mené à tes côtés, Ben. Jamais. Les moments exaltants, inquiétants d'angoisse, où j'ouvrais le petit samedi soir pour savoir comment avaient évolué les choses, comment était l'état des négociations. Même si par la suite on a voulu cracher sur ce combat en tentant d'avilir les techniciens que tu évoques, animés comme nous, du même esprit civique, et qui se battaient comme toi, comme moi, sur des positions nationales. Car c'est là le maître mot de ce qui nous a unis, malgré les malentendus, malgré les désaccords de détail. Et il y en a eu, et c'est bien qu'il y en ait eu, et c'est bien qu'il en soit ainsi, car toi et moi, nous avons pratiqué tous les jours la différence démocratique. Le maître mot, être sur des positions nationales. Transcender les rancunes et les haines du passé en se situant sur ces positions nationales, positions que nous n'avons jamais abandonnées. Et c'est ce maître mot qui nous a unis chaque fois que c'était nécessaire. Les autres sont venus ensuite grossir les rangs des amants de la vérité, grossir les rangs des fils de la liberté. Toi et moi, nous avons applaudi chaque fois qu'une nouvelle recrue se manifestait, chaque fois qu'un nouveau journaliste indépendant surgissait de l'ombre. Gloire aussi à eux. Ils s'imaginent peut-être la tâche facile, parce que le prince nous concède depuis 30 jours officiellement la liberté. Mais l'objet de notre réflexion du jour est de savoir si nous devons crier « Alléluia » pour ces 30 jours et juger la tâche accomplie. Je dis tout de suite non. Notre tâche n'est pas facile. Elle semble peut-être superficiellement moins vouée à d'anciens dangers, mais le danger est là. Comme le disait Bertolt Brecht, le ventre de la bête qui a enfanté le fascisme est encore fécond. Aussi, ce n'est pas à notre vigilance qu'il faut faire appel. Nous savons très bien que pour ceux qui croient en la liberté cadeau, il ne saurait y avoir de vigilance. Un cadeau se reprend, quelle que soit la vigilance de celui qui l'a reçu. Mais pour ceux qui, comme nous, croyons que cette liberté est le fruit de la conjoncture, tant nationale, si faible, qu'internationale, que l'on dit forte, alors c'est à notre prudence et à notre sagesse dans l'exercice de cette liberté qu'il faut faire appel, de façon à ne pas la remettre en cause à chaque pas, à chaque étape. Prudence et sagesse, certes, mais lucidité dans l'analyse quotidienne de cette conjoncture. Ne pas prendre un lumignon pour un rayon de soleil. Ces 30 jours sont faits de quoi? Pour moi, lumignon, pas encore rayon de soleil. Ces 30 jours sont faits de quoi? De quelques déclarations du prince, ici et à l'étranger. D'un champignonnement de revendications dans la presse parlée surtout. Et là, il faut rendre un juste hommage à l'action de Radio Nationale, qui, surprenant tous les pronostics, se fait depuis quelques mois la courroie de transmission des réclamations de toutes sortes, comme jamais Radio Haïti Inter n'aurait osé le faire. Il est vrai que l'inexpérience, la jeunesse, le manque de formation professionnelle peuvent causer des bavures sensibles qui alerteraient les cercles du pouvoir et provoqueraient ce choc en retour répressif que nous craignons d'autant plus que nous ne jugeons pas encore ce processus démocratique irréversible. Le point de non-retour n'est pas atteint. Prudence donc dans l'utilisation de cette liberté neuve et fragile. Oh, combien fragile! Il est certes inévitable que des groupes sociaux tenus longtemps sous la pression se sentent aujourd'hui moins comprimés et disent leur besoin d'une vie moins lamentable, d'un travail mieux rémunéré. Il est inévitable que des paysans spoliés par des vautours de toutes sortes réclament le droit dessalinien à la terre. Signalons en passant que ces paysans n'ont pas attendu une déclaration du prince, une déclaration princière de liberté formelle, pour lutter pour leur terre. Hommage leur soit rendu. Hommage soit rendu à leur combat avant-coureur. Il est inévitable que tout cela bouillonne dans un brouhaha généreux et peut-être un peu frondeur. Il est inévitable que des parents de disparus sollicitent les corps ou les biens de ceux qu'ils attendent toujours. Il est inévitable que le corps social s'ébroue pour tenter timidement de retrouver son équilibre et de remodeler sa silhouette. Mais attention, il ne faut pas amalgamer toutes les revendications pour rendre ensuite responsable d'un prétendu désordre la presse qui s'en serait fait l'écho. Certes, on ne peut pas confondre l'agitation immature et un peu licencieuse de conducteurs de camionnettes contre des mesures de discipline sociale peut-être proposées hâtivement, mais dont certaines seraient justifiées par le développement démographique d'une agglomération suburbaine. Il ne faut pas confondre cette agitation immature avec la sage, intelligente et raisonnable levée d'énergie d'ouvriers d'usine réclamant l'application littérale d'un code du travail progressiste et qui porte un nom vénéré par les hommes du pouvoir. Si d'un côté, dans la hâte et l'euphorie des preuves à fournir d'intentions généreuses, l'on accorde à l'indiscipline plus qu'elle n'a réclamé, au risque de froisser des fonctionnaires sans nuance, certes, brutaux, dit-on, mais soucieux de faire leur travail, de l'autre, on bloque peut-être, par des mesures administratives sclérosées, la voie à une solution humaine et non bureaucratique des litiges présents et à venir. Certes, il est peut-être dangereux pour les hommes en place de laisser la rue ouverte à de telles manifestations. Dangereux aussi pour la quiétude de l'investisseur étranger, investisseur si nécessaire à notre bataille économique. Il est très important de souligner que la rue doit être calme et paisible pour que l'investissement étranger vienne en toute confiance, en toute sécurité et en toute paix. Mais il faut que, parallèlement, les structures bureaucratiques, que les travailleurs dénoncent eux-mêmes comme surannées et défaillantes, soient contrôlées minutieusement par le prince. Et si l'on bloque d'un côté la rue, de sorte qu'elle ne devienne la foire d'empoigne d'affrontements sociaux, il faut, d'un autre côté, que l'administration prévue par la loi offre à tous la sécurité, l'objectivité nécessaire à la vraie conciliation. De même, si l'on demande courtoisement à tous les signataires d'une lettre ouverte réclamant justice ou lumière sur le cas des disparus, faut-il que la procédure légale proposée offre la sécurité et l'efficacité que l'on réclame pour une vraie normalisation des choses? La normalisation, c'est ce à quoi nous rêvons tous, n'est-ce pas? Avec, en filigrane, ce mot. Ce mot précieux, ce mot cadeau, ce mot que Paul Éluard décodait sur ses cahiers d'écolier, sur son pupitre et les arbres, ce mot que le poète murmure au vent de la barbarie fasciste qui passe, ce mot du résistant au compagnon sorti de l'ombre à la barbe du SS, ce mot qui alimente l'espoir dans les geôles de Pinochet, ce mot qui réchauffe les cœurs sous la bise glaciale de l'archipel soviétique du Goulag, ce mot que les Portugais lancèrent un jour de printemps comme un bouquet de roses, ce mot que les Espagnols apprirent à épeler depuis la mort de Franco, ce mot qui revenait en leitmotiv sur les lèvres de Jacques-Stéphane Alexis, notre chevalier d'espérance et borgné et sanglant, le long de son calvaire de Bombardopolis à Fort-Dimanche, ce mot projectile que les paysans de Bocozel dans l'Artibonite apprirent à lancer contre les voleurs de terre. Ce mot qui hante peut-être les rêves d'avenir d'un jeune prince cherchant sa voie, cherchant la voie de son pays. Ce mot galvaudé, ce mot putain, ce mot phénix, car il renaît chaque jour de son lit de pourriture. Ce mot liberté depuis quelques jours sur toutes les lèvres, dans tous les cœurs. Il se faufile dans les arrière-cours des bidonvilles où fermente la misère. Il bougonne à l'ombre des cheminées d'usine où patiente la colère. Il troque ses hardes contre des nippes élégantes derrière les comptoirs du bord de mer. Il se glisse sur le clavier des machines à écrire des chroniqueurs dans les salles de rédaction. Il remonte à la gorge des animateurs entre deux disques jockey. Ce mot vénéré, ce mot espoir, ce mot liberté, notre espoir à tous. Aujourd'hui, après 30 jours.